C'est quoi ce pull ridicule avec une grosse tête de reine?
Oh zut, tu l'as vu? Ah bah j'ai pas eu le temps de l'emballer, c'est maman qui te l'a tricoté pour Noël.
Le voilà, l'oncle, le grand-père. Son idée chemine depuis le début du repas et elle arrive ici, entre le fromage et le dessert. Une dernière gorgée pour s'éclaircir la voie parce que la COP28 se termine demain. Il n'y aura probablement rien de plus, visiblement, encore moins d'ambition face aux enjeux. Et c'est maintenant qu'on en parlera en famille. Ce n'est pas le bon moment pour convaincre, pas le moment pour se pencher sur la question. C'est trop tôt avant le dessert. D'ailleurs, quel bon moment, quelle bonne manière pour ne pas se figer dans ce sentiment d'impuissance. Amis auditeuristes, on va aborder cette question autrement aujourd'hui, l'enjeu du climat, la protection de notre biodiversité. Oui, parmi ces grandes questions environnementales, on va se pencher sur la question des haies bocagères et de leur importance. Ça sera avec Jean-Marc Lalose de Mayenne Nature Environnement. Bienvenue chers auditeuristes, bienvenue Lucie dans cette toute première agitée du local de la semaine.
Bonjour.
Dans la suite de l'émission, Lucie, tu te rends au Forum de la Santé Mentale qui a lieu au centre hospitalier de Château-Gontier. Tu y as été le 5 décembre.
Tout à fait.
Tu y as vu des structures médicales, des associations qui étaient présentes, mais pas seulement, et on découvre ça tout à l'heure.
Exactement.
Et aujourd'hui, on termine l'émission avec la chronique de la Ligue des droits de l'homme avec Alain Voisin qu'on accueille en ce début de semaine. On commence par ton coup d'œil sur les actualités locales, Lucie.
Eh bien, pour commencer, l'Agence régionale de santé, ou ARS, pour aller plus vite, souhaite démentir plusieurs articles parus la semaine dernière qui mentionneraient sa volonté de fermer l'accueil de nuit des urgences de Château-Gontier et de Mayenne au profit d'une ouverture unique sur le site des urgences du centre hospitalier de Laval. L'ARS explique qu'elle n'a aucune volonté de fermeture des urgences dans le département de la Mayenne, mais souhaite simplement coordonner l'organisation entre les trois établissements, Château-Gontier, Laval et Mayenne. L'idée étant de garder autant que possible les trois services d'urgence ouverts, de diminuer à deux services s'il y a un manque de personnel, et seulement si ce manque est trop important, alors de donner la priorité au centre hospitalier de Laval, puisqu'il est géographiquement central et avec le plateau technique le plus développé. Ils ajoutent également qu'il s'agit d'anticiper ce cas de figure et d'organiser une coordination des plannings entre les trois établissements pour que les trois services d'urgence puissent bel et bien rester ouverts. Pardon. Plusieurs syndicats, la CGT Éducation 53, la FSU 53 et Sud Éducation 53, appellent à la mobilisation des personnels le mardi 12 décembre pour, je cite, « exiger le retrait de la réforme des lycées professionnels ». Ils s'opposent entre autres à la diminution de 6 semaines du parcours commun des élèves de lycées professionnels au profit d'un parcours personnalisé de 6 semaines également. Ils craignent que cette modification du temps de formation commune puisse dégrader le bac pro et notamment en diminuant les heures de cours pour laisser la place aux semaines de stage. Ils s'inquiètent aussi de la réduction de 15% des places de formation décrétées non insérantes, annoncées pour la rentrée 2026. Selon eux, tout ça serait annonciateur de suppression de postes pour les enseignants et côté élèves, ce serait le risque d'un accroissement du décrochage scolaire. Et enfin, ils reprochent au ministère de vouloir, je cite à nouveau, « prendre de cours les personnels et les élèves » puisque les textes devraient passer au Conseil supérieur de l'éducation ce jeudi 14 décembre pour une mise en œuvre dès la rentrée 2024.
En parlant de nouvelles mesures, le Conseil municipal de Caussée-le-Vivien consulte le public pour la création de zones d'accélération pour les énergies renouvelables. Dis-moi plus, Lucie.
Tout à fait, Margot. En fait, les zones d'accélération des énergies renouvelables sont pour la commune l'occasion d'accueillir des installations d'énergie renouvelable sur son territoire et donc de montrer sa volonté d'agir en faveur de la transition énergétique. Parmi toutes les choses à savoir, une à noter est que pour le conseil municipal, définir les zones d'accélération d'énergie renouvelable ne veut pas dire qu'un projet est en cours ou verra obligatoirement le jour. Comme tu l'as dit Margot, la création de ces zones est soumise à consultation des habitants du 11 au 29 décembre 2023 et une présentation plus complète que celle que je viens de vous faire en quelques mots est disponible à l'accueil de la mairie de Caussée-le-Vivien aux horaires d'ouverture ainsi que sur le site internet de la commune. Et un registre des avis est disponible également à la mairie ou par mail à mairie@caussee-le-vivien.fr. Et puis, avant de conclure, ce week-end, à Château-Gontier, il n'y a pas eu que le marché de Noël. Il y a aussi eu une rave party en périphérie du centre-ville, dans la zone industrielle de Bellitourne, pardon. C'était dans les bâtiments occupés auparavant par l'entreprise Adonial, liée au groupe Lafarge, et environ 2000 personnes s'y sont rendues, selon la gendarmerie. La fête s'est arrêtée aux alentours de 14h dimanche. Voilà, et bon, pour finir ces brèves, la compagnie des Trois Points Suspension, un collectif d'artistes, propose le spectacle Hibou à Saint-Berthevin. Il s'intéresse dans cette création au thème du deuil, des rites autour du décès et de la relation aux personnes décédées. C'est ce mercredi 13 décembre à 20h au Reflet à Saint-Berthevin, avec des entrées à 13 ou 7 euros en fonction des tarifs. Et vous pouvez réserver au 02 43 69 21 90 ou à www.saint-berthevin.fr.
Bonjour Jean-Marc Lalose, vous êtes administrateur dans l'association Mayenne Nature Environnement. L'association développe une éducation à l'environnement et s'engage en faveur de la biodiversité. Le samedi 25 novembre, vos adhérents ont remis le prix Orchidée 2022 à Madame Girard et Monsieur Radepont. Et ce même jour, vous avez planté 500 arbres au lieu dit Montreuil à Villiers-Charlemagne avec le collectif qui se fait appeler le collectif des joyeux planteurs. Donc aujourd'hui, justement, j'aimerais parler avec vous des haies bocagères. En France, le linéaire des haies est passé de 1 250 000 km en 1975 à 700 600 km en 1987, soit une baisse de 43%. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est une haie bocagère et pourquoi c'est important pour la biodiversité ?
Une haie bocagère, c'est un écosystème, c'est-à-dire que ça rassemble tout le vivant, depuis les bactéries du sol jusqu'aux oiseaux, c'est-à-dire de l'invisible au visible et de l'extrêmement petit au visible, donc les oiseaux, les prédateurs, les renards, toutes les espèces, tous les genres, les mammifères, les oiseaux, les rongeurs, les bactéries, les virus, les vers de terre, les parasites, etc. C'est vraiment un ensemble et tout ça, ça vit, bien sûr, sans oublier toutes les espèces végétales. Et ça repose sur un socle qu'on appelle le biotope, qui est la partie abiotique, c'est-à-dire non vivante, c'est-à-dire les roches, les sols, etc., qui constituent le talus, par exemple, de la haie bocagère. Parce qu'une haie bocagère donc, rassemble toute cette biodiversité, l'ensemble des espèces du vivant, et c'est ce qui fait toute sa richesse et tout son intérêt, pour l'homme surtout.
D'accord. Et alors, pourquoi à un moment, on a décidé de détruire ces haies ?
Eh bien, ça remonte même avant les années 75 que vous citiez, parce que ça remonte en fait à l'après-guerre, lorsqu'il s'est agi de résoudre le problème de rationnement, parce que n'oubliez pas, jusque dans les années 50, la nourriture était rationnée en France après la guerre. Donc l'objectif, c'était de faire en sorte qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire, qu'on peut appeler aussi souveraineté avec des nuances et tout ça. Et donc il a été décidé de mettre en place un modèle agricole qui tient toujours la route actuellement et malheureusement qui est allé au-delà de son objectif, qui était justement d'atteindre l'autosuffisance. Et parmi ce modèle, une des voies qui était donnée, c'était d'agrandir les parcelles, tout ça pour favoriser le travail, les tracteurs, les machines, etc. Donc on a massivement abattu des haies, des milliers de kilomètres tous les ans, pour arriver à ce résultat catastrophique actuel.
Et alors, est-ce que la Mayenne a des particularités concernant justement le retrait de ces haies ou est-ce que ça a été autant que ce qui a été fait dans le reste de la France ?
Quand on parle arrachage de haies, il faut penser zone bocagère. Or, toute la France n'est pas une zone bocagère. En gros, il y a le Grand Ouest, il y a donc, on peut dire, Normandie, Bretagne, Pays de Loire, même Poitou-Charentes, ex-région Poitou-Charentes, tout le Sud-Ouest aussi, au sud de la Garonne, le Massif Central, tout l'Est. Enfin, il y a quand même beaucoup de régions où il y a eu un impact, mais on peut dire que sur le Grand Ouest, c'est là où il y a eu le maximum d'effets, en particulier avec la mise en place de l'élevage industriel, des cultures industrielles, du maïs, etc. Avec, en exemple toujours cité, c'est le modèle agricole breton.
Et justement, vous parliez de l'objectif à un moment donné d'agrandir les parcelles. Donc en fait, quand on abat une haie, ça agrandit considérablement la parcelle ?
Oui, un des motifs numéro un, c'était de favoriser le machinisme agricole. Donc la course aux grandes surfaces pour pouvoir manœuvrer facilement, tout ça, plus les cultures dites industrielles, du maïs ou autre, pour pouvoir nourrir beaucoup plus d'animaux en élevage et tout ça. Vraiment le modèle agricole industriel ou intensif, mais industriel, ça va au-delà de l'intensif, c'est-à-dire que ça devient purement des objectifs financiers, économiques et tout ça, et on fait... on oublie complètement le caractère animal, le bien-être animal, etc.
Donc à cette époque-là, on ne s'alertait pas de ce qui était en train de se faire ?
Voilà, alors si, certains s'en inquiétaient déjà, mais ils n'étaient absolument pas entendus. Le plus bel exemple, c'est le professeur René Dumont qui s'est présenté aux élections en 1974, qui est passé, il a fait un 2%, je crois, aux élections à l'époque, très très peu de choses. Donc les scientifiques déjà s'inquiétaient, mais on ne parlait pas de réchauffement climatique, mais c'était parti. Or, on a commencé à vraiment soulever le problème, justement dans les années 70 à peu près, quand les premiers prémices, rappelez-vous le sommet de Rio en 72 et tout ça, avec les premiers prémices de dégradation de l'environnement avec impact sur le climat et donc sur l'avenir de la biodiversité dont fait partie l'espèce humaine, ne l'oublions jamais. L'homme n'est pas en dehors de la biodiversité, c'était une des espèces qui fait partie. Et en fait, tout ça, ça aboutit à agir contre la nature, la notion de dominer, etc. Alors qu'on a oublié qu'il fallait agir avec la nature puisqu'on en était partie prenante.
Et donc le ministère de l'Agriculture a lancé en 2015 un plan national de développement de l'agroforesterie qui comporte plusieurs mesures. Et les parcelles entourées de haies sont considérées comme les principaux paysages contribuant à ce plan. En 2021 également, le gouvernement a annoncé un plan de relance, plantons des haies, avec une enveloppe de 50 millions d'euros pour accompagner justement ces plantations de haies. Donc ça montre la nécessité de replanter ces haies et pour le coup cette prise de conscience. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés peut-être en dehors des coûts financiers que peuvent rencontrer particulièrement les agriculteurs quand on se pose la question de replanter ?
Je dirais s'il y a une difficulté, elle est psychologique, c'est-à-dire que ça fait plus de 50 ans qu'on leur dit, même 70 maintenant si on considère l'après-guerre, où on leur dit depuis 3-4 générations, il faut arracher pour faire plus grand, pour faire plus de production, pour faire du rendement, etc. Or tout ça, ça aboutit à détruire le support même de l'agriculture, qu'est la biodiversité, les sols. Et ça, la notion de puits de carbone, de biodiversité, de sol et d'eau, quel est le pivot de tout ça ? C'est la haie bocagère. Tout ça, si vous détruisez ça, et c'est ce qui se passe actuellement, vous détruisez à terme tout l'avenir de la biodiversité et donc de l'espèce humaine, puisque l'agriculture en particulier est parfaitement tributaire de la qualité des sols. Ce qui est bien, ce que vous dites, ce qui a été annoncé, c'est ça dénote la prise de conscience, qui est récente, parce que quand on a créé le collectif Bocage 53 avec MNE en 2018, on était dans le déni, on était traité de Cassandre, de tout ce qui soit. Et brutalement, là, on a la prise de conscience depuis 2 ans et ça part dans tous les sens. Alors tout le monde voudrait faire bien, en particulier les politiques, et tant mieux. Mais par contre, ce que les politiques n'ont pas encore mesuré, c'est qu'ils ont un affichage d'action, d'accord, mais l'ambition de ces actions est trop limitée par rapport aux objectifs. Ça doit être le prochain cap, plus exactement, c'est-à-dire adapter le volume de plantation, à réellement aux besoins. Et actuellement, on peut dire, par exemple, en Mayenne, on a fait une étude à peu près en ordre de grandeur. Il faudrait replanter d'ici 2040 90 000 km de haies et replanter 100 000 hectares de prairies naturelles. Ce qui n'est pas du tout ce qui est en train de se produire. C'est même totalement l'inverse encore. Hein. Or, ça paraît gigantesque comme ça. Mais ce sont simplement les quantités qui ont été arrachées depuis 60 ans. Détruites depuis 60 ans. Alors, je ne parle même pas des zones humides. Les mares, 98% des zones humides, des mares. Enfin, c'est vraiment affolant. Donc, il y a vraiment des ambitions à faire grandir. Parce que, bon, je prends un exemple. Nous, on dit qu'il faut 90 000 km rien qu'en Mayenne. Et l'État s'engage à financer 50 000 km pour la France. Voilà. Donc, d'accord, bravo pour l'affichage, bravo pour la prise de conscience. Mais attention, ajuster les ambitions.
Oui, pour l'instant, c'est encore insuffisant, donc, pour le coup. Et justement, donc, votre association met en place des actions. Et si on revient au 25 novembre, par exemple, à la remise du prix Orchidée, expliquez-moi un petit peu ce qui s'est passé, puisqu'il y a également eu une plantation d'arbres ce jour-là.
Tout à fait. Bah, ce sont des gens qui d'ailleurs, ce ne sont pas des agriculteurs. Ils ont repris une ferme pour habiter, un corps de ferme, plus exactement, comme on dit, avec 2-3 hectares. Et comme ils sont très sensibilisés, ils se sont dit on va replanter du puits de carbone et ça va redonner de l'agrément au lieu, ça va réintroduire de la biodiversité, parce que la biodiversité, elle a cette ce potentiel de reconquérir des territoires dès qu'on lui redonne un milieu qui lui est favorable. Donc il y a eu en une matinée, il y a eu 500 arbres à peu près de plantés par une équipe de 36 volontaires. Ce sont des gens comme vous et moi. Simplement, bah, soit ils habitent en ville et ils n'ont pas l'occasion d'avoir un petit jardin hôte et ça leur fait plaisir de venir planter, d'aider à planter. Soit ce sont bah, des militants d'associations ou autres comme ça, mais c'est fait tout à fait volontairement et tout à fait, je dirais, en termes de volume, c'est anecdotique. Par rapport à ce qui est planté et par rapport à ce qui devrait être planté, mais au moins c'est quelque chose de très concret. Et 500 arbres, ben, je peux vous dire que quand vous dans le paysage dans 2-3 ans, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on replante, l'effet biodiversité, c'est-à-dire l'effet biologique, ça va demander plusieurs décennies, 20-30 ans, pour atteindre les pleins services pour la biodiversité et pour la nature. Hein. Donc ça, c'est vraiment clé et c'est tout l'objectif qu'on a. Et bon, on n'a pas l'ambition à nous seuls de résoudre le problème, mais au moins, on contribue à donner un élan à ces actions.
Alors peut-être que vous avez des actualités à Mayenne Nature Environnement, des événements à venir ?
Bah, des événements à venir, il y en aura toute l'année. Alors, vous avez déjà tout le catalogue des activités, des sorties nature. Et donc, là, les gens viennent, ne serait-ce que simplement avoir le plaisir d'être dans la nature, de comprendre ce qui se passe, d'avoir des explications, mais aussi de se perfectionner, d'apprendre, et puis évidemment d'intégrer ces groupes naturalistes. Et c'est clair que pour intégrer les groupes naturalistes de MNE, il n'est pas besoin d'avoir des compétences d'être sorti du Muséum d'Histoire Naturelle. La plupart des naturalistes de MNE que vous avez actuellement, considérés comme des experts, au départ, ils n'avaient aucune compétence. Ils se sont construits au travers des sorties, des travaux. Et ça, on encourage tous les gens qui vous écoutent, tous les auditeurs éventuellement, à adhérer à MNE ou à d'autres associations environnementales pour justement acquérir ces compétences et apporter un peu plus qu'une simple cotisation, ce qui est déjà fondamentalement très, très important.
Et donc justement, pour vous retrouver, pour avoir les informations sur tout ce qui est mis en place, où est-ce qu'on peut vous retrouver ?
Je crois que le plus simple, c'est d'aller voir par exemple sur le site MNE ou alors aller à Louvernay au siège où vous serez toujours accueillis les bras ouverts.
Merci Jean-Marc, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté toutes ces précisions.
Avec plaisir.
Allez, on sort des studios, direction le centre hospitalier de Château-Gontier. C'était le 5 décembre, Lucie, tu as été au forum de la santé mentale, rencontré différents acteurs du territoire sur place. Et alors, je ne savais pas, mais les nouvelles technologies peuvent intervenir dans le processus d'accompagnement. Tu nous en parles tout à l'heure. Et puis vous le savez, nous aussi on prend soin de vous. Je vous connais un peu maintenant et le lundi je sais qu'il faut doubler de créativité pour réussir à faire son petit effet. C'est pas encore les vacances, j'ai quand même décidé de vous emmener à la plage.
Une journée à la plage, toi, moi et la mer, tout au bout de la terre. Comme ton regard se perd et prend le large, même si c'est vrai, j'ai passé là. Changer d'air, plonger dans le paysage. Même si c'est vrai, j'ai passé là. regarder les nuages. Un lundi à la plage, une journée toute entière d'ombre et de lumière. Quand le soleil s'enterre derrière le rivage, même si c'est vrai, j'ai passé là.
Rendez-vous sur la santé mentale à Château-Gontier. Lucie, tu y as été, raconte-nous.
Tout à fait, Margot. C'était donc la semaine dernière au centre hospitalier de Château-Gontier. Plusieurs intervenants et associations étaient présents, aussi bien pour échanger entre eux que pour faire connaître les différents accompagnements possibles au public. Et oui, parce que la santé mentale, ce n'est pas que dans les services médicalisés. Il y a plein de possibilités en fonction des parcours des personnes. L'idée du forum était donc de faire connaître au public les différentes structures et de montrer la complémentarité entre tous les acteurs en fonction des phases que traverse la personne qui a besoin d'un accompagnement. Difficile de faire honneur à tout le monde, Enosia, le Crepsy, le geste 53 et plein d'autres. On y retourne ensemble pour un aperçu.
Je suis Véronique Perrier, je suis infirmière coordinatrice et case manager sur le pôle de santé mentale de l'hôpital de Château-Gontier. Donc aujourd'hui a lieu un forum de la santé mentale qui regroupe plusieurs associations et plusieurs partenaires qui accompagnent les parcours des personnes qui sont porteurs d'un trouble psychique ou d'une pathologie d'ordre santé mentale. L'idée c'était de faire connaître les différents partenaires, non seulement aux professionnels qui le souhaitent, mais également au grand public pour venir chercher l'information, en tout cas pouvoir la trouver dans un endroit. La santé mentale est un domaine qui fait peur. Les gens ne sont pas toujours très enclins à venir chercher les informations. En tout cas, aujourd'hui, l'idée, c'est d'ouvrir ça et puis de permettre l'information à ceux qui souhaitent venir.
Est-ce que ça reste un sujet assez tabou dans ce que vous observez ?
Oui, je pense que c'est difficile d'indiquer pour les personnes qu'elles ont un trouble psychique ou un traitement ou une pathologie, alors qu'elles peuvent très bien s'intégrer dans la vie citoyenne comme tout le monde, sans que ça soit un problème en fait. En tout cas, beaucoup de personnes sont concernées par la santé mentale. La santé mentale, c'est une partie de notre santé qui est très très importante, dont il faut prendre soin. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait ce genre d'événement.
Je suis bénévole à l'UNAFAM et c'est l'Union nationale des familles de malades psychiques. Et nous sommes concernés par cette association parce que nous avons un enfant qui souffre de troubles psychiques. Ça peut être une schizophrénie, des troubles bipolaires, des TOC, des borderline, dépression sévère, etc. Voilà. Et bien d'autres encore. Alors à l'UNAFAM, on propose d'abord un accueil et ensuite, avec la famille, on lui propose de participer à un groupe de parole, de participer à des ateliers où on apprend un petit peu, avec l'aide de soignants, ce qu'est la maladie psychique, comment faire, etc. Et puis, il y a ensuite, avec l'aide de soignants, il y a des ateliers qui sont faits autrement sur des thèmes spécifiques. Voilà. Nous, notre objectif, c'est d'expliquer aux proches que, d'accord, vous avez un enfant ou un conjoint ou un parent ou un frère ou une sœur qui souffre d'une maladie psychique, mais vous n'êtes pas seul et on peut vivre à côté, on peut avoir une vie à côté et on peut aider votre proche à mieux vivre sa maladie. Et maintenant, si on est dans un salon comme ça, c'est qu'on est reconnu par les professionnels comme étant une association qui est bénéfique pour les familles. Et tout ce qui est bénéfique pour les familles a une répercussion ensuite près des proches.
Est-ce que vous travaillez avec des professionnels de la santé mentale du coup ?
Ah oui, mais là les infirmiers, les médecins, les psychiatres, les psychologues, oui.
Oui, moi je fais l'accueil des familles avec le psychologue. Et là, les familles s'écoutent, présentent la situation de leurs proches. Hein. Toutes les familles s'écoutent, il n'y a pas de souci. Hein. Et c'est vraiment une grande famille où tout le monde se sent bien.
Bonjour, Alice Soudou, infirmière et sophrologue sur le pôle de psychiatrie. Donc, je m'occupe de la thérapie par exposition dans un cube de réalité virtuelle. En fait, il s'agit progressivement d'exposer un patient à une situation anxiogène, accompagné toujours du thérapeute, de manière progressive et répétée pour qu'il puisse petit à petit s'habituer en fait avec des signes d'anxiété et pouvoir tolérer notamment ces symptômes pour pouvoir au mieux s'adapter dans un quotidien.
Est-ce que c'est une technologie qui est très nouvelle ou est-ce que ça existe depuis un moment et juste on n'en a jamais entendu parler ?
La thérapie par réalité virtuelle existe depuis un moment, notamment il y a des casques aussi de réalité virtuelle. Là, c'est un peu différent, hein. C'est un cube, donc il y a par des écrans, il y a des lunettes 3D, il y a une caméra spécifique. C'est un cube qui est créé en fait à Laval Virtuel par Imagine VR, hein, donc dans le département. En tout cas, oui, c'est quelque chose d'assez récent tout de même. Sur ce mode-là.
Et est-ce que vous observez du coup des résultats particulièrement positifs sur des choses qui auraient échoué ailleurs ?
Échoué, je ne sais pas. On va dire que c'est une plus-value qui est proposée à la personne. C'est vraiment un outil supplémentaire qui permet à la personne de pouvoir aussi comprendre ce qui se passe pour elle afin de faciliter son quotidien.
Et le fait de comprendre, de mettre des mots sur son vécu, est-ce que c'est quelque chose de général en santé mentale ?
Oui, c'est ce à quoi on travaille avec le persan, de pouvoir le rendre autonome pour développer ses capacités d'adaptation à l'extérieur. Après, là, ça vient vraiment faire support pour discuter de ça. Ça a un avantage aussi, on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur pour pouvoir faire des expositions. Donc là, au moins, c'est sur place, c'est facile d'accès, en fait. Une fois qu'on a créé les vidéos, on peut autant de fois que nécessaire exposer le patient et surtout l'adapter, c'est-à-dire aller au rythme du patient.
Aujourd'hui, Alain Voisin de la Ligue des droits de l'homme vient avec sa chronique en poche. C'est juste après ce moment suspendu que tu nous proposes, Lucie.
C'est mon câlin pour les oreilles du lundi, mon moment rêverie, la tête dans les étoiles. On écoute Calypso du trio Saturne.
Alain Voisin, les associations et organisations syndicales mayonnaises alertent.
Oui, bonjour. Effectivement, les associations et organisations syndicales mayennaises alertent parce que le dimanche 26 novembre, une petite centaine d'individus, certains masqués, ont défilé dans les rues de Laval en proférant des mots d'ordre haineux. Ils étaient venus pour une bonne part de départements voisins, hors de la Mayenne donc, mais aussi étaient présents les responsables mayennais des partis zémouriens et lepénistes. Cette manifestation a été organisée en lien avec le drame de Crépol, où un jeune garçon, Thomas, a été assassiné. Ainsi, une nouvelle fois, l'extrême droite tente d'utiliser l'émotion autour d'un fait divers pour pousser ses slogans d'exclusion et chercher à mettre en cause des étrangers, notamment les étrangers qui sont supposés de confession musulmane, et ce, alors que dans le fait divers en question, l'enquête et l'action de la justice se poursuit toujours.
Face à cela, une large réaction des syndicats et des associations, donc.
Et oui, je reprends le texte de le rappel, qui dit « Nous, associations, engagées au quotidien auprès des plus démunis, français et immigrés. Nous, organisations syndicales de salariés, dans l'action pour le respect des droits de toutes et de tous. Nous tous ensemble, agissant contre le racisme, contre toutes les discriminations, marquons d'un signal d'alerte la journée du dimanche 26 novembre. Pour la première fois, notre ville de Laval a vu défiler des groupuscules exprimant leur haine et leur rejet des étrangers en faisant les responsables de tous les maux qui touchent notre société. Cette manifestation a été organisée conjointement par des éléments ultra, certains condamnés par la justice du fait de leur action violente, et aussi les membres des partis d'extrême droite qui se présentent aux élections. Ainsi, le responsable départemental du Rassemblement national est un des acteurs majeurs de cette manifestation. Apparaît alors clairement la nature des partis cherchant à se rendre présentables, mais n'ayant de fait rien abandonné de leurs objectifs et de leur idéologie, qui se résume en racisme, rejet de l'autre, agitation par tout moyen pour opposer les populations selon leurs origines ou leurs croyances, y compris par la violence. Et les associations et syndicats poursuivent nos engagements et nos actions, nous obligent à alerter les citoyens. Il convient de faire connaître la vraie nature des partis d'extrême droite et le grave danger qu'ils représentent. Ils veulent organiser la société sur le rejet, l'exclusion, attiser les haines, les violences. Ensemble, ces organisations syndicales et associatives marquent aujourd'hui une détermination commune et une coordination pour agir dans ce sens-là. Et je vais citer les signataires donc, qui sont du côté des syndicats, la CFDT, la CGT, FSU, les Solidaires. Et du côté des associations, la Ligue des droits de l'homme, Femmes solidaires, la Ligue de l'enseignement, Citoyens du monde, Les Trois Mondes et la GOM Centre LGBT de la Mayenne.
Une coordination donc.
Oui, il s'agit effectivement de faire la clarté sur les véritables objectifs des partis d'extrême droite. D'abord, ils sont liés et ils sont le prolongement des groupuscules ultra qui portent la haine de l'autre, le racisme et qui utilisent la violence. Il s'agit de montrer le danger que représentent les partis d'extrême droite qui veulent se donner une image respectable mais qui sont totalement liés aux ultras et qui n'ont rien changé. Ce sont des partis qui poussent la haine de l'autre, qui poussent le racisme, qui poussent la division. Ce sont des partis qui font de l'immigré un paria, ce sont des partis qui veulent casser les droits sociaux des travailleurs en les empêchant de revendiquer. Alors oui, il faut s'engager maintenant, sans tergiverser, parce que c'est maintenant que le danger de prise de pouvoir de l'extrême droite existe. Et c'est le sens de ce texte commun où les organisations syndicales et les associations conviennent de se coordonner pour faire reculer les idées d'extrême droite. Parce que ce qui est en question, et chacun le ressent bien, ce qui est en question, ce sont les droits fondamentaux, les droits de l'homme.
Merci Alain. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Lucie, et on monte dans le premier train de la semaine à 19h.
Tout à fait, avec Solénoïde, l'émission musicale de la semaine qui nous fait voyager.
Ensuite, à 20h, on se plonge dans la discothèque du programmateur. Bon, bah voilà, on commence cette semaine ensemble sur l'autre radio, et là, je vous sais nombreux à compter les jours jusqu'aux vacances. Ça va aller, prenez soin de vous. On se retrouve demain à 12h15. Faites au mieux, et en tout cas, faites-le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini.